Pendant ce discours, l'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre, le dos rond, les bras inertes. Sous la lumière plus vive, on remarqua son extrême maigreur, ses joues creuses, ses pommettes étrangement saillantes, son visage couleur de terre, marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieilli et flétri. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient si souvent publié le portrait sympathique. On eût dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. Deux fois, elle lui fut répétée. Alors il leva les yeux, parut réfléchir, puis, faisant un effort violent, murmura
« Baudru, désiré. »
Je ne me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, libre à vous. Quant à moi, j'irai droit au but sans me soucier de vos fantaisies. »
Et il entra dans le détail des vols, escroqueries et faux reprochés à Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes les autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal Ganimard fut introduit et l'intérêt se réveilla. Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air non pas intimidé, et on avait vu bien d'autres, mais inquiet, mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, les deux mains appuyées à la barre, il racontait les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique. Et l'on écoutait avec avidité, comme on écouterait le récit des plus passionnantes aventures. Mais vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à deux reprises il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit
« Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. »«
Non, non, non. Seulement... »
Il se tut, regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit
« Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. »
Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée. Puis il retourna la barre. Et là, d'un ton un peu solennel, il prononça
« Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici en face de moi n'est pas Arsène Lupin. »
Un grand silence accueillit ces paroles. Le président, interloqué d'abord, s'écria
« Ah ça, que dites-vous? Vous êtes fou !»
L'inspecteur affirma posément
« À première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance qui existe, en effet, je l'avoue. Mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin quoi, ce n'est pas Arsène Lupin. » Et les yeux, donc? A-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique?
Voyons, voyons, expliquez-vous. Que prétendez-vous, témoin?
Est-ce que je sais? Il aura mis en son lieu et place un pauvre diable que l'on allait condamner. À moins que ce ne soit un complice.
Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit mander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens, et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait entre Arsène Lupin et cet homme qu'une très vague similitude de traits.
« Mais alors, s'écria le président, quel est cet homme? D'où vient-il? Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice?
On introduisit les deux gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante. Ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit.
« Oui, oui, je crois bien que c'est lui. »«
Comment vous croyez ?»«
Madame, je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir et depuis 2 mois, il reste toujours couché contre le mur. »«
Mais avant ces 2 mois ?»«
Ah, avant, il n'occupait pas la cellule 24. »
Le directeur de la prison précisa ce point.
« Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. »«
Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis 2 mois ?»«
Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, il se tenait tranquille. »«
Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis ?»«
Non. »«
Alors qui est-il ?»«
Je ne saurais le dire. » »«
Nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a 2 mois. » « Comment l'expliquez-vous ?»«
C'est impossible. »«
Alors ?»
En désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante.
« Voyons, accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ?»
On eût dit que ce ton bienveillant désarmait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. « Enfin, » habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases, d'où il ressortait ceci. 2 mois auparavant, il avait été amené au dépôt. Il y avait passé une nuit et une matinée. Possesseur d'une somme de 75 centimes, il avait été relâché. Mais comme il traversait la cour, 2 gardes le prenaient par le bras et le conduisaient jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24, pas malheureux, on y mange bien. On y dort pas mal. Aussi, n'avait-il pas protesté. Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoya l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête. L'enquête tout de suite établit ce fait consigné sur le registre d'écrou. 8 semaines auparavant, un nommé Baudru Désiré avait couché au dépôt. Libéré le lendemain, il quittait le dépôt à 2 heures de l'après-midi. Or, ce jour-là, à 2 heures, interrogé pour la dernière fois, Arsène Lupin sortait de l'instruction et repartait en voiture pénitentiaire. Les gardiens avaient-ils commis une erreur? Trompés par la ressemblance, avaient-ils eux-mêmes, dans une minute d'inattention, substitué cet homme à leur prisonnier? Il eût fallu vraiment qu'ils y misent une complaisance que leurs états de service ne permettaient pas de supposer. La substitution était-elle combinée d'avance? Outre que la disposition des lieux rendait la chose presque irréalisable, il eût été nécessaire en ce cas que Baudru fût un complice et qu'il se fût fait arrêter dans le but précis de prendre la place d'Arsène Lupin. Mais alors, par quel miracle un tel plan uniquement fondé sur une série de chances invraisemblables, de rencontres fortuites et d'erreurs fabuleuses, avait-il pu réussir? On fit passer Désiré Baudru au service anthropométrique. Il n'y avait pas de fiche correspondant à son signalement. Du reste, on retrouva aisément ses traces. À Courbevoie, à Asnières, à Levallois, il était connu. Il vivait d'aumône et couché dans une de ces cahutes de chiffonniers qui s'entassent près de la barrière des Ternes. Depuis 1 an, cependant, il avait disparu. Avait-il été embauché par Arsène Lupin? Rien n'autorisait à le croire. Et quand cela eût été, on n'en eût pas su davantage sur la fuite du prisonnier. Le prodige demeurait le même. Des 20 hypothèses qui tentaient de l'expliquer, aucune n'était satisfaisante. L'évasion seule ne faisait pas de doute, et une évasion incompréhensible, impressionnante, où le public, de même que la justice, sentait l'effort d'une longue préparation, un ensemble d'actes merveilleusement enchevêtrés les uns dans les autres, et dont le dénouement justifiait l'orgueilleuse prédiction d'Arsène Lupin. « Je n'assisterai pas à mon procès. » Au bout 1 mois de recherches minutieuses, l'énigme se présentait avec le même caractère indéchiffrable. On ne pouvait cependant pas garder indéfiniment ce pauvre diable de Baudru. Son procès eût été ridicule. Quelle charge avait-on contre lui? Sa mise en liberté fut signée par le juge d'instruction. Mais le chef de la sûreté résolut d'établir autour de lui une surveillance active. L'idée provenait de Ganimard. À son point de vue, il n'y avait ni complicité ni hasard. Baudru était un instrument dont Arsène Lupin avait joué avec son extraordinaire habileté. Baudru libre, par lui, on remonterait jusqu'à Arsène Lupin, ou du moins, jusqu'à quelqu'un de sa bande. On adjoignit à Ganimard les deux inspecteurs Folenfant et Dieuzy. Et un matin de janvier, par un temps brumeux, les portes de la prison s'ouvrirent devant Baudru Désiré.